Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou qui assure ses clients, partenaires et employés de tout son soutien face à cette pandémie. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. C'est une petite poche verdâtre d'une dizaine de centimètres de long située au niveau de l'abdomen, la vésicule biliaire, organe annexe du tube digestif qui stocke et évacue la bile produite par le foie. La bile, ce fluide indispensable dans notre processus de digestion, vésicule biliaire, à l'intérieur de laquelle peuvent se former des petits cailloux, hein, les calculs biliaires qui, dans la plupart des cas, ne feront pas parler d'eux. Mais chez certaines personnes, une douleur va se manifester au creux de l'estomac et donner l'alerte. Si le médecin le juge nécessaire, l'opération, l'ablation de la vésicule biliaire pourra alors être recommandée. Au cours de cette émission, on va bien sûr évoquer l'anatomie, le rôle de cet organe finalement assez peu connu, aborder également la question des complications, symptômes, diagnostics. Quels facteurs peuvent favoriser la survenue des calculs biliaires? Est-ce qu'il y a des habitudes à éviter pour limiter les risques? Qu'est-ce que la colique hépatique? On attend vos questions sur la page Facebook de l'émission et un autre numéro 33 1 84 22 75 75. La vésicule biliaire, affection trouble associée à cet organe. Avec nous en studio, professeur Chantal Housset, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes hépatologue praticien dans le centre de référence maladies rares sur les maladies inflammatoires des voies biliaires et des hépatites auto-immunes à l'hôpital Saint-Antoine à Paris et professeur de biologie cellulaire à la faculté de médecine de Sorbonne Université. Tout à l'heure, on va retrouver en ligne de Mauritanie le professeur Mohamed Aye, hépato-gastro-entérologue au CHU de Nouakchott et professeur des bateaux gastro-entérologie à la faculté de médecine de Nouakchott. En fin d'émission, on va parler des craintes qui portent sur la menace que fait peser sur le continent africain l'importation d'un moustique originaire d'Asie, un insecte vecteur de paludisme en milieu urbain. Sa présence est déjà signalée à Djibouti, en Éthiopie, au Soudan. On retrouvera en ligne Frédéric Simard, entomologiste médical, directeur de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement.
Priorité santé sur RFI.
Alors, au cours de cette émission, on va bien sûr décrire cet organe, organe qui finalement, professeur Chantal Housset, comme d'autres parties de notre anatomie, se rappelle à notre bon souvenir, en fait, lorsqu'il pose problème, voire même quand on va s'en débarrasser. On connaît presque plus les calculs biliaires que notre vésicule biliaire.
Absolument, c'est le paradoxe. Mais il ne faut pas oublier que si on a une vésicule biliaire, c'est pour une raison. C'est un organe qui est très conservé dans toutes les espèces, hein, depuis chez tous les vertébrés, y compris les poissons, les serpents, à quelques exceptions près, comme le rat, le pigeon, le cerf, la baleine. Mais en dehors de ces exceptions, pratiquement tous les vertébrés ont une vésicule biliaire, donc il y a quand même une raison pour laquelle on a une vésicule biliaire.
Alors, on s'intéresse aux êtres humains dans cette émission. Sur notre corps, si on doit localiser cette vésicule, on va dire si on se palpe l'abdomen, c'est où précisément?
Alors, c'est sous le foie. Alors, on s'intéresse aux êtres humains, mais ce que je veux dire par là, c'est que un organe, un gène qui est très conservé à travers les espèces,
il
veut dire
son utilité,
qu'il est important. Mm-hmm. Voilà, c'était ça mon message.
Je comprends bien, mais ça nous intéresse aussi. Mais là, on va essayer de le trouver sur notre corps, à nous, notre
corps.
Alors,
il est à la face inférieure du foie. Hein, le foie, c'est un énorme organe qui occupe la partie droite l'abdomen, hein, qui remonte presque sous les côtes, mm-hmm. Qui est juste sous le diaphragme. Et d'ailleurs, et sous le foie se trouve la vésicule biliaire. Je dis sous le diaphragme parce que un des signes qui est caractéristique de ce qu'on appelle la colique hépatique, d'origine vésiculaire, c'est une difficulté à prendre une inspiration profonde. Et ça, c'est la répercussion de la douleur sur le diaphragme.
Alors, professeur Housset, est-ce que la vésicule fait partie à proprement parler de notre système digestif?
Ah oui, totalement. On parle beaucoup ces derniers temps de l'axe gut, liver, intestin, foie, dans le système digestif, absolument.
Alors c'est un petit sac, hein, pour bien comprendre, ça a cette couleur verdâtre qui tranche avec le foie qui est vraiment très très rouge. Alors, excusez-moi, petite poche qui n'est pas indispensable, on va en parler tout à l'heure avec l'opération. Par contre, la bile qui est stockée dans la vésicule, elle est vraiment indispensable pour notre digestion, professeur Housset. Ça sert à quoi exactement la bile et qu'est-ce que c'est ?
Alors la bile, c'est, puisque vous avez évoqué son aspect, effectivement si vous avez déjà vu de la bile, d'animaux pour le coup, c'est un milieu assez visqueux, vert, et qui en fait contient des lipides, c'est-à-dire des molécules hydrophobes, des graisses. Mmh. Donc, vous voyez ce qui se passe quand vous mettez de l'huile dans de l'eau, ce n'est pas soluble, et ça forme ce qu'on appelle des petites micelles. Mmh. La façon de mettre en suspension des lipides dans l'eau, c'est de faire des micelles. La bile, c'est exactement ça. Ce sont des micelles d'acide biliaire, un peu de cholestérol et phospholipides, donc beaucoup beaucoup de lipides, un peu de bilirubine qui est un pigment, produit de dégradation de l'hémoglobine, et donc c'est ça la composition de la bile. Sa fonction, elle est en fait assurée par les acides biliaires qui sont précisément des molécules, des savons, hein, c'est-à-dire amphiphiles avec un pôle hydrophobe, partie lipidique, cholestérol. Là, je vous fais peur.
Oui, vous me faites peur. Vous bon. Sortez des mots un peu compliqués pour nous.
Ce que je veux dire, c'est que
quand
les acides
savon,
biliaires,
ça on comprend bien. Savon,
c'est
ça
des
sert
savons.
À quoi ?
C'est des savons. Ça sert à faire des micelles, c'est-à-dire à dissoudre les lipides.
Voilà. Ça vraiment, ça aide à digérer tout simplement.
Ça va digérer les lipides dans l'intestin.
Alors, on comprend bien la nature, fonction de la vésicule biliaire, indispensable à la digestion. Maintenant, du côté des problèmes qui peuvent la concerner, les calculs biliaires, il y a d'autres termes, on dit aussi lithiase vésiculaire ou lithiase biliaire. On parle de cailloux, c'est vraiment quelque chose de solide, de dur ?
Oui, oui, oui. La lithiase, c'est le terme générique pour désigner la maladie qui est associée à des calculs. Hein, le calcul, c'est le caillou, c'est vraiment un caillou d'ailleurs.
Il est formé de quoi ?
Alors, dans la majorité des cas, dans les pays occidentaux, c'est 80% des cas, c'est une majorité de cholestérol, donc c'est la précipitation du cholestérol. Mais dans des pays où il y a beaucoup de maladies hémolytiques, ça peut être des calculs pigmentaires. Dans 20% des cas, ça peut être des calculs pigmentaires de bilirubine précisément.
Ça va être associé à une comorbidité, à une maladie associée dans ce cas-là.
Oui.
Alors, une question très directe d'un auditeur du Cameroun, hein, c'est Adamou. Il demande tout simplement quels sont les symptômes des calculs biliaires.
Alors, le plus souvent, il n'y a pas de symptômes.
D'accord.
Ça, vous le savez.
C'est silencieux.
C'est silencieux. Il n'y a pas de symptômes. C'est une découverte fortuite au cours d'une échographie. Dans 80% des cas, il n'y a pas de symptômes. Ensuite, il peut y avoir des formes symptomatiques non compliquées et des formes symptomatiques compliquées.
Ça veut dire on peut avoir des douleurs sans finalement que cela ne soit très grave.
Exactement.
Et par contre, on peut avoir une maladie silencieuse, mais là, par contre, il faut faire quelque chose.
Non. Les complications, elles sont toujours symptomatiques.
D'accord.
Non,
il y a forcément une douleur comme signal d'appel.
Ce que je veux dire, c'est que souvent, c'est asymptomatique, 80%, mais quand c'est symptomatique, ça n'est pas forcément compliqué. Voilà.
D'accord.
Et c'est une nuance importante parce que jusqu'à il y a peu de temps, dès que la règle c'était un calcul asymptomatique, pas de cholestérol, on n'enlève pas la vésicule biliaire, un calcul symptomatique, on l'enlève, et cette politique a changé.
Ça veut dire qu'on a trop opéré ?
Oui. Oui, oui. On le savait pas, hein. C'était pas, on le savait pas. Mais, des grandes études prospectives montrent qu'on a sans doute trop opéré. Et, par exemple, que après une cholecystectomie, il y avait la persistance des symptômes dans 33% des cas. Donc, vous voyez, ça fait un bon tiers des cas. Ce qui signifie qu'il n'était pas lié, au calcul dans la vésicule biliaire.
Alors, diagnostiquer les calculs, on l'a compris, la clinique, s'il y a des douleurs. On a parlé aussi d'une échographie. Adolphe Amboujimaï en RDC demande quelles sont les analyses à faire pour savoir si on a des calculs biliaires.
Le seul examen, c'est l'échographie. Mmh. si on n'a pas accès à l'échographie, écoutez, alors évidemment les formats symptomatiques, ça c'est impossible hein, si on n'a pas l'échographie ou des examens plus sophistiqués a fortiori, hein, comme la résonance magnétique nucléaire, d'autres examens. C'est en cas de symptômes, un certain nombre de signes qui sont plus spécifiques de la vésicule biliaire, comme le signe de Murphy, c'est-à-dire ce blocage de la respiration, quand on palpe l'abdomen, une irradiation vraiment très localisée dans, c'est vraiment au creux épigastrique, hein, c'est-à-dire ici juste sous le sternum, ou un peu plus à droite, irradiation à l'épaule ou dans le dos.
Alors, professeur Housset, on a un autre auditeur, cette fois à Gaumont RDC, qui pose cette question sur la page Facebook de l'émission. Quels sont les facteurs qui favorisent l'apparition des calculs biliaires? Est-ce qu'on est égaux face aux calculs biliaires?
Non, nous ne sommes pas égaux. Le premier facteur, d'ailleurs, puisque vous parlez d'égalité, c'est la génétique. Il y a des facteurs génétiques, donc je pourrais développer...
J'ai lu aussi que les femmes étaient davantage concernées.
Oui.
Pourquoi?
Oui. Alors donc les facteurs génétiques, le fait d'être une femme, c'est un facteur génétique si on veut. Ce sont les hormones. Clairement, d'accord. Les hormones, les estrogènes, et d'ailleurs preuve en est que les calculs sont aussi favorisés par le nombre de grossesses, par la prise d'estroprogestatifs. L'âge est un autre facteur. Hein. Plus on avance dans l'âge, plus le risque de former des calculs augmente. Et puis très important maintenant, c'est l'insulinorésistance, le syndrome métabolique, la surcharge pondérale, la maladie du siècle.
On va dire obésité, diabète,
obésité, diabète, c'est un facteur de risque de calcul biliaire.
Alors on va dans quelques instants parler des troubles, des affections. On va continuer hein, sur ce sujet de la vésicule biliaire. D'abord, si vous le voulez bien, professeur Housset, un témoignage. Ce témoignage, c'est celui de Marie-Sara. Elle a 41 ans. Elle a subi une ablation de la vésicule biliaire l'an dernier. Opération assez courante, hein, malgré tout, mais pour Marie-Sara, eh bien, l'intervention a eu un certain retentissement sur sa qualité de vie. Elle raconte au micro de Raphaël Constant.
Ça a commencé en octobre 2019. Je me suis retrouvée pliée en deux. J'ai cru que j'allais crever de douleur. J'ai été hospitalisée une première fois. On m'a pas parlé de vésicule. Je suis repartie à la maison avec un diagnostic un peu erroné de constipation. Et la semaine suivante, quand ça a recommencé, je suis retournée en urgence à l'hôpital en pleine nuit. Là, j'ai eu des antidouleurs costauds. Et là, on a fait un scanner, une prise de sang, un bilan complet. J'avais une pancréatite aiguë, le foie qui était en train de lâcher. Donc, d'après le bilan sanguin et le scanner, ils ont vu que la vésicule était remplie de calculs. Et on m'a dit qu'a priori, un calcul avait dû sortir et provoquer tout ce désordre. Donc, ils m'ont gardé à l'hôpital. Donc, c'était au moment d'Halloween 2019. Dans un premier temps, il a fallu calmer le pancréas, le foie. Enfin, certains médicaments étaient interdits parce que ça allait vraiment pas bien. J'étais sous antibio, à jeun total, même pas le droit de boire de l'eau. J'ai passé une fibroscopie, d'abord, pour éventuellement dégager les voies biliaires s'il restait un calcul coincé. Bon, il y en avait pas. Et quand mes taux sanguins étaient revenus acceptables, là, ils ont programmé l'ablation de la vésicule.
Et de quelle opération il s'agit ?
Alors, on vous enlève la vésicule biliaire. On discute pas, on fait confiance. Tout le monde vous dit que c'est une opération bénigne, que l'intervention va durer une heure. Enfin, j'y suis vraiment allée en toute confiance. Voilà, et effectivement, ça dure pas longtemps. Bon, après, les suites de la cœloscopie avec les gaz qui font mal, c'est compliqué. Faut le temps que les organes se remettent, enfin voilà, parce qu'il manque quand même quelque chose, mais rien d'inquiétant en fait sur le moment.
Et alors justement, comment s'est passée la convalescence après cette opération plutôt légère et bénigne?
Moi, je me souviens que je suis rentrée, j'avais du mal à marcher, les envies alimentaires ont complètement changé. Il y a une réinitialisation de vos sensations. Donc parfois, vous dites « Ouh là là, je suis barbouillée, il faut pas que je mange, je vais vomir », mais en fait, c'est l'inverse. Vous avez faim, il faut manger quelque chose pour vous sentir mieux. Et bah, presque un an après, là, je suis pas revenue à mon alimentation d'avant.
Et comment vous pourriez décrire votre qualité de vie depuis cette opération ?
Ben, forcément dégradé, parce que quand on sort, quand on va déjeuner avec des gens, que dans le menu, il y a des choses qui vous barbouillent rien qu'en lisant, enfin, c'est plus compliqué. Et le deuxième gros souci, c'est le transit, qui dit transit accéléré. Et puis en plus, alors selon les jours, c'est pas du tout pareil, hein, ça prévient pas. Il y a des matins où je me lève, j'ai envie d'aller aux toilettes. Je sais que ça peut me durer la journée. Donc, on peut plus sortir comme avant. Faut s'assurer qu'il y ait des toilettes disponibles. Enfin, c'est vraiment très, très compliqué et c'est pas reconnu, en fait. Quand je vois qu'au bout d'un an, j'ai toujours pas retrouvé une vie, ma vie d'avant, je me dis que c'est peut-être tout le reste de ma vie où j'aurai des diarrhées surprises, des nausées comme ça pendant une semaine sans trop comprendre ce qui se passe et devoir manger des biscottes et des bouillons, et c'est vraiment pas drôle.
Propos requis par Raphaël Constant, professeur Chantal Housset. Alors, ce témoignage, dans ce cas-là, on va le dire, c'est une maladie grave, on entend pancréatite aiguë. Mmh. C'est quoi le lien entre les calculs biliaires et ce terme qu'emploie donc ce témoin Marie-Sara, pancréatite aiguë?
Alors, comme je vous l'ai dit, une des complications des calculs biliaires, de la vésicule biliaire, c'est leur migration. Mmh. Quand ils sont dans la vésicule, ils peuvent entraîner des complications locales, mais ils peuvent aussi migrer par un canal qui va se déplacer dans la voie biliaire principale, hein, extra-hépatique, et dont l'abouchement dans l'intestin rejoint celui du canal pancréatique. Mmh. Donc, au même endroit, c'est un petit sphincter, débouche le canal biliaire et le canal pancréatique. Et quand des calculs biliaires se bloquent dans ce sphincter, ce petit sphincter, il peut y avoir en amont d'un côté l'angiocolite, hein, c'est l'infection de la bile, et de l'autre, du côté du pancréas, une stagnation des enzymes pancréatiques qui sont des enzymes aussi de digestion et qui vont littéralement digérer le pancréas. Donc, c'est ce qu'on appelle la pancréatite, c'est une inflammation aiguë du pancréas qui est une complication sévère. Vraiment sévère. Hein. Il faut vraiment traiter en urgence cette affection. Voilà. Donc, la priorité absolue, c'est de passer l'épisode de pancréatite aiguë.
Il faut sauver le pancréas parce que lui, contrairement à la vésicule, il est absolument indispensable.
Absolument. C'est la priorité absolue. Et on peut en aucun cas prendre le risque de garder la vésicule biliaire après une complication aussi grave. Donc, je crois qu'il n'y a aucun regret à avoir. Il fallait absolument enlever la vésicule.
Il n'y a pas le choix, tout simplement.
Il n'y a tout simplement pas le choix. Alors, j'ai quand même... Ouais.
Et l'inconfort, cet inconfort, est-ce que d'après vous, c'est directement lié à l'ablation de la vésicule biliaire? Ou est-ce que vous entendez parfois, après des ablations, ce type justement de gêne?
Alors, je ne sais pas quel âge a cette patiente.
Elle a une quarantaine d'années à peine.
Une quarantaine d'années. Ok. Donc je vais vous parler quand même d'une autre piste qui serait intéressante peut-être d'explorer chez cette patiente. Je ne sais pas dans quelles conditions a été faite la cholécystectomie. Est-ce que c'était de façon décalée? Est-ce que c'était vraiment en urgence? Il peut y avoir des complications de l'opération en elle-même. Ça c'est excusez-moi toujours possible. Mais il est rapporté des troubles qui sont très variables après des cholécystectomies dont on n'a jamais fait la preuve qu'elles étaient directement liées à la cholécystectomie. Donc, il n'est pas du tout évident que les anomalies que ressentent cette patiente soient
directement associées à l'opération.
Oui. En tout cas, au fait de plus avoir la vésicule. L'opération, ça, il y a des complications possibles. Ça, je n'ai pas l'ensemble des éléments. Un point que je voulais aborder, c'est que il y a des formes. Je vous ai parlé de facteurs génétiques, mais il y a une forme génétique particulière à laquelle on s'intéresse dans le centre de référence des maladies biliaires, qui s'appelle le LPAC, l'eau phospholipide, qui est due à des anomalies d'un transporteur biliaire et qui fait que c'est à peu près 1% des lithiases symptomatiques, donc c'est rare, mais ça peut arriver, surtout chez des patients avant 40 ans, des symptômes qui récidivent après cholécystectomie, et des histoires familiales aussi très proches de lithiase. Cette patiente m'interpelle à ce sujet. Et dans ce cas-là, on recherche les variations de ce transporteur, on fait une analyse génétique, et la particularité, c'est qu'il y a des calculs dans les voies biliaires intrahépatiques, très différents, de la vésicule qui migre dans le gros canal extrahépatique, il y a des calculs dans les voies biliaires, et ça se voit à l'échographie, et l'intérêt, c'est qu'il y a un traitement, l'acide ursodésoxycholique, qui empêche totalement les récidives.
Il y a un médicament, c'est important de dire,
il y a un traitement. Donc je trouve que ce serait très intéressant.
De faire des examens complémentaires.
Ah oui, ah oui.
D'accord, on va se retrouver dans quelques minutes, professeur Housset. On donnera bien sûr la parole à nos auditeurs. Petite pause musicale tout de suite dans Priorité Santé avec les Fugees. Ready or not.
Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and make you want me.
Now that I escape, sleep, walk awake. Those who correlate know the world ain't cake. Jail bars ain't golden gates. Those who fake, they break. When they meet their 400-pound mate, if I could rule the world, everyone would have a gun in the ghetto, of course. When get the up and on their horse. Kick around, drinking moonshine. I pour a sip on the concrete for the deceased, but no, don't weep. Why Clef's in a state of sleep, thinking about the robbery that I did last week. Money in the bag, banker look like a drag. I wanna play with pelicans from here to Baghdad. Gun blast, think fast, I think I'm hit. My girl pinched my hips to see if I still exist. I think not, I'll send a letter to my friends. A born again, a hooligan, only to be king again.
Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come.
I play my enemies like a game of chess where I rest. No stress if you don't smoke cess. Less, I must confess, my destiny's manifest. It's some vortex and sweats. I make tracks like I'm homeless. Rap orgies with Borgy and Bess. Capture your bounty like Elliot Ness. Yes, bless you if you represent the fool. But I hex you with some witch's brew if you do do. Voodoo, I could do what you do. Easy. Believe me, frontin' niggas give me heebie-jeebies. So while you imitating Al Capone, I be needing Simone and defecating on your microphone.
Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you. Take it slowly. You can't run away from these styles I got. Oh, baby, hey, baby, 'cause I got a lot. Oh, yeah. And anywhere you go, my whole crew gonna know. Oh, baby, hey, baby, you can't hide from the bag. Oh, no.
Ready or not, refugees taking over. The Buffalo Soldier, dreadlock roster. On the 12th hour, fly by in my bomber. Crews run for cover, now they under pushing up flowers. Super fly, true lies do or die. Toss me high, only puff fly with my poop from like high. I, refugee from Guantanamo Bay. Dance around the border like I'm Cassius Clay.
Ready or not, here I come. You can't hide.
Yo, nobody.
Gonna find you. Slowly, ready or not, here I come, you can't hide.
Hey, yo, nobody move.
Gonna find you and make you want me. Ready or not, here I come.
Les Fugees dans Priorité Santé sur RFI. On continue de parler de la vésicule biliaire, trouble affection associé à cet organe. Toujours avec notre invité professeur Chantal Housset, pathologue et chercheur. Alors, on va donner la parole aux auditeurs dans quelques secondes. D'abord, message Facebook d'un auditeur de Guyane qui s'appelle Chéri, professeur Housset. Je vais vous lire son message. Chéri explique souffrir de calculs biliaires avec constipation, une douleur irradiante dans son épaule droite. Et en fait, il aimerait tout simplement savoir, ça résume un peu notre échange depuis le début de l'émission, si justement pour une personne atteinte de complications de la vésicule biliaire, il y a une autre solution que la chirurgie, un autre traitement à envisager, à imaginer. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre ?
C'est là où il faut, c'est subtil, c'est difficile, faire la distinction entre un symptôme et une complication. Mmh. Je ne vois pas dans sa description d'éléments en faveur réellement d'une complication. La constipation n'a rien à voir avec la vésicule biliaire. Donc, assez typiquement, ce patient décrit des symptômes qui sont pas absolument typiques. Alors, il y a c'est vrai, la douleur qui irradie à l'épaule droite, plus des calculs. Je pense que dans ce cas-là, il n'y a pas d'indication, sauf autre élément, bien sûr. Mm-hmm. Il faut voir l'ensemble des. Il n'y a pas vraiment d'indication.
Ce serait quoi un signe qui devrait dire là impérativement, vos urgences, on opère. Ça veut dire quoi ? C'est une fièvre.
Voilà. Mm. C'est des complications. C'est des vraiment ce qu'on appelle des complications. Un syndrome inflammatoire ou bien évidemment une élévation des enzymes hépatiques. Donc, il faut quand même faire une prise de sang, etc.
Donc, on va dire peut-être s'il y a cette douleur persistante. Faire une surveillance régulière pour voir s'il n'y a pas de complications.
Oui. Ce n'est pas parfaitement codé, si vous voulez.
On
n'est pas catégorique. Je dirais qu'il y a quelques temps, on enlevait systématiquement. Maintenant, c'est un peu au chirurgien, en fonction de la description de la symptomatologie, de décider. Et donc, les études sont en cours pour vraiment décider quelle est la meilleure stratégie.
Peut-être la meilleure réponse pour Chéri, c'est qu'il aille en consultation et qu'il pose vraiment toutes les questions qui sont dans sa tête à son médecin en face à face pour réclamer bien des explications claires. On va partir pour le Congo, pour Brazzaville, où on retrouve Paul en ligne. Bonjour Paul.
Bonjour Madame Caroline.
Alors on vous écoute, racontez-nous ce qui vous arrive.
En fait, ça fait déjà 2 ans de cela. Je sentais un peu mal vers l'aile droite, en bas, vers le thorax. Des douleurs intenses. Donc, mais comme ici, nous ici, je travaille pas, je débrouille, je vois le pain. Maintenant, je suis allé voir un frère, il m'a dit, si ça persiste, il faut qu'on fasse un effort pour qu'on va voir le docteur. C'est un peu de l'expliquer. S'il s'agit d'aller faire même l'échographie, c'est mieux. Moi, je dis, moi, je n'ai pas d'argent. Les échographies, là, il faut avoir de l'argent. Et puis, je me suis efforcé comme si je vendais le pain. Bon, et puis, j'ai eu 5000 francs, là. Mon frère m'a complété 5000. Et je vais voir le médecin. Il me dit, lui, il reçoit pas un rendez-vous. Donc, c'était à journée. Et puis, le lendemain, je suis reparti. J'allais voir le docteur, je l'ai expliqué, il m'a dit, bon, d'accord, il faut que tu fasses l'échographie. Moi, je lui ai dit, mais docteur, vraiment, tu es qui me voit là, je suis orphelin des deux côtés. Donc, des problèmes
financiers, Paul, pour financer cette échographie, cet examen. Mais ça veut dire aussi que dans le cas où on vous dirait, Paul, il faut vous faire opérer, vous n'auriez pas non plus l'argent pour vous faire opérer, c'est bien ça?
Non plus, madame, non plus, parce que ici, j'arrive, donc, et puis bon, je fais le nécessaire d'avoir 10 000 francs, je me suis rendu à l'hôpital.
Je comprends bien. Donc aujourd'hui, vous vous inquiétez, vous vous demandez si, avec ces douleurs, eh bien, c'est dangereux de rester comme ça, alors que vous ne pouvez pas vous payer les soins, vous ne pouvez pas vous payer l'opération, c'est ça?
C'est ça, madame, parce que le docteur m'avait demandé que j'amène 280 000 francs, des francs CFA, et auxquels je n'arrive pas à rejoindre. Donc, avec la crise actuelle, Donc c'est difficile, c'est difficile.
Mais là, en fait, le problème que vous posez, Paul, c'est pas vraiment un problème sur la maladie, puisqu'on ne peut pas faire ces examens. C'est davantage un problème sur l'accès aux soins qui se pose, bien évidemment, puisqu'on a compris, vous avez des moyens limités et que, bien évidemment, comme il n'y a pas de système de santé aussi efficace que dans d'autres pays du monde, au Congo-Brazzaville, bien, il faut tout simplement payer de sa poche quand on a des examens à faire. C'est vraiment problématique. Professeur Chantal Housset, d'abord, ça nous rappelle que ici, on a la chance de pouvoir se faire soigner correctement et chaque jour où on se réveille, on doit en avoir conscience. Et puis la deuxième chose, c'est qu'effectivement, ces examens, ils sont absolument indispensables pour pouvoir poser un vrai diagnostic, et c'est ce dont aurait besoin Paul s'il en avait les moyens.
Oui, je ne peux pas dire le contraire. Nous avons beaucoup de chance. Notre système de soins est vraiment un grand atout. Une grande chance. Vous dites, monsieur, que vous avez des calculs biliaires, mais comment en êtes-vous sûr, finalement?
Je pense que c'est le médecin qui a posé ce diagnostic en disant médecin. Il faut une échographie pour en être certain,
ah,
pour
oui,
vérifier.
Ah oui, c'est ça. Je pense qu'il faudrait... parce que la question, c'est que si il y a des calculs et que qu'on pose l'indication d'une cholécystectomie parce que les symptômes sont trop fréquents, la question suivante, c'est celle que vous avez soulevée, c'est que il faudra aussi des moyens pour réaliser
l'opération.
Pour réaliser l'opération.
Si on avait des conseils, on va dire, hygiéno-diététiques au niveau de l'alimentation, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller simplement à Paul? Peut-être des changements alimentaires pour éviter qu'il ressente ces douleurs, ou on va dire, si les calculs sont déjà là, en quelque sorte, c'est un petit peu trop tard?
Il n'y a pas vraiment de consignes. C'est plutôt de la prévention.
Mmh, hein. Bon, alors
c'est,
on peut,
c'est plutôt de la prévention. On peut quand même recommander, je ne sais pas, Paul, si vous avez une surcharge pondérale, par exemple.
Est-ce que vous êtes en surpoids, Paul? Est-ce que vous avez des problèmes de poids?
Non, madame. Non,
non plus.
Non. Voilà, donc il n'y a pas de recommandation particulière sur l'alimentation.
En fait, le problème qui se pose, c'est bien le problème que ressentent beaucoup de personnes dans la région, c'est d'avoir un vrai problème de santé ou des inquiétudes et de pas avoir les moyens financiers pour pouvoir payer tous ces examens.
Quelle est la fréquence de vos douleurs, monsieur?
Les douleurs aiguës. Hein.
Ça veut dire c'est tous les jours, Paul?
Oui, donc même le docteur m'avait demandé qu'à ce que je prenne les NOSPA pour la maladie. Et ensuite de boire beaucoup d'eau. C'est ce qu'il m'avait dit. Et eau minérale. Moi, je dis eau minérale pour avoir eau minérale.
Je crois qu'il n'y a pas absolument une base rationnelle hein, pour l'eau minérale. La question, c'est vraiment la fréquence de vos douleurs. Est-ce que c'est de l'ordre d'une fois par mois, une fois par an, une fois par 6 mois, une fois...
C'est tout le temps ces douleurs ou c'est rarement?
C'est tout le temps, madame. C'est nettement que vous parlez, je sais, si là je sens seulement des douleurs. Donc
c'est
il faut
permanent.
À chaque question prendre... C'est permanent. Il faut prendre l'espace fond, donc... Je suis fatigué, madame. Je suis trop fatigué.
Il faut être sûr que ce soit pas une colopathie fonctionnelle, par exemple. Vous voyez, je pense qu'il faut pas se fixer sur la vésicule biliaire, parce que 10% au moins de la population générale et dans certaines régions du monde avec des facteurs génétiques, c'est plus, ont des calculs. Donc on a tout fait d'associer les symptômes aux calculs.
Et là, comme il n'y a pas eu les examens complémentaires, il n'y a pas moyen de confirmer.
Voilà.
Ben, bon courage, Paul, on vous souhaite bon courage. On va partir pour l'autre Congo, la RDC, Bukavu, l'Est de la RDC, avec Benoît. Bonjour, Benoît.
Bonjour, madame.
Alors vous, Benoît, vous avez été opéré, racontez-nous.
Oui, en fait, j'avais depuis 2004, j'avais senti une grande douleur qui venait de la main droite, qui s'était installée au niveau de la poitrine, et dans la partie droite toujours de la poitrine. Alors, vers 2017, j'avais décidé de me faire consulter. Comme il y avait de fortes douleurs, des douleurs très très intenses là. Alors, le médecin plus tard va lever l'option de me faire opérer. Mmh. C'est ainsi que je connaîtrai une opération en 2007. Dommage que, et là où le bas blesse, les douleurs qui avaient fait assez que je sois opéré étaient ressurgies après l'intervention.
Mmh.
Je vous assure que jusqu'à ce jour, les mêmes douleurs continuent. Une grande chaleur, beaucoup de radiations dans cette partie-là droite du corps. Alors, j'ai toujours pensé que peut-être le médecin n'avait pas bien pointé le problème que je souffrais pour que je sois que je sois opéré.
Donc, alors, il y a la question de Benoît, c'est est-ce que finalement les douleurs qu'il ressent après l'opération, c'est dû à l'opération elle-même? La question qu'on peut vous poser, professeur Housset, c'est est-ce qu'il y a un certain nombre de personnes à qui on retire la vésicule biliaire qui ressentent ensuite toujours des douleurs?
Un tiers. Donc voilà. Vous illustrez parfaitement ce cas. Ça ne veut pas dire que le chirurgien n'aurait pas dû vous enlever la vésicule biliaire. Mmh. C'est ça que j'explique, c'est que maintenant, on revoit un petit peu la position. Avant, on faisait des cholécystectomies très largement. Maintenant, on essaye de limiter, justement, parce que dans un tiers des cas, il y a une récidive des symptômes. Mais donc, je ne jette pas du tout la pierre au chirurgien.
Mmh. Est-ce qu'il y a moyen de soulager Benoît? Parce que je pense qu'au fond, c'est ça. Alors, sa question.
Bah, je trouve que ces symptômes sont typiquement cette sensation de chaleur, ce qu'on peut appeler des symptômes très, très asymptomatiques pour un calcul. Donc, c'est une autre origine. Là, ça m'est vraiment très difficile de dire quelle est l'origine. Donc, encore une fois, est-ce que c'est une colopathie fonctionnelle? Il faut se méfier, évidemment, de pathologies sérieuses. Mais ça, je pense que les médecins, il y a des formes atypiques de maladies cardiovasculaires.
Donc, c'est pas forcément associé à l'opération. Donc, Benoît, le meilleur conseil, c'est de retourner en consultation, aller voir un médecin pour parler de vos problèmes de santé trouver une réponse qui corresponde à la réalité.
C'est ce qu'on appelle les troubles dyspeptiques qui sont mal définis, voilà, qui embêtent beaucoup les médecins, encore plus les patients, et qui relèvent de traitements symptomatiques, d'antidouleurs, de prise en charge, de relaxation, etc. C'est pas du tout impossible.
Pour aller mieux. Professeur Housset, on va tout de suite partir pour Nouakchott.
RFI à Nouakchott, 103.3 FM.
On vous retrouve, professeur Mohamed Ayé, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes hépato-gastro-entérologue au CHU de Nouakchott. Professeur Ayé, est-ce que vous avez des chiffres sur la proportion de la population concernée par ces problèmes, le sujet de notre émission du jour, les calculs biliaires en Mauritanie?
Bonjour madame, bonjour madame Housset, professeur Housset.
Bonjour. Exactement, monsieur.
Nous avons une grande prévalence de calculs biliaires jusqu'à la population, jusqu'à 17% dans la population mauritanienne. Bon, ça s'explique peut-être avec une très grande prédominance féminine. 86% des femmes contre 14% des hommes sont atteints de calculs et de voies biliaires. Bon, effectivement, on trouve les mêmes facteurs partout. Que ce soit génétique, hormonal, les femmes, c'est tout, et les syndromes dysmétaboliques, en particulier, que ce soit le surpoids, l'obésité, jusqu'à l'obésité morbide, et le diabète, tout ça. Nous avons une culture, c'est la culture ici, on gave les femmes pour qu'elles prennent du poids, pour qu'elles fassent des rondeurs. C'est un signe c'est un signe ancien de d'aisance, quoi.
D'opulence.
D'économie, oui.
En ce qui concerne l'alimentation, professeur Ayé, est-ce que vous pouvez pointer des habitudes particulièrement néfastes? On essaye quand même d'insister sur la prévention, sur les conseils, sur ce qu'il ne faut pas faire, tout simplement.
Ce qu'il ne faut pas faire, non, c'est l'obésité dont je parle. On essaie de faire les femmes. On a des habitudes culinaires très particulières. Nous sommes beaucoup consommateurs de viande rouge. Parce que nous sommes un pays désertique, donc il n'y a que le chameau ou le dromadaire qui peut circuler. Et pratiquement, on mange pratiquement la viande mi-jours avec une moyenne de 300 grammes par jour ou 300 grammes par personne. C'est la base de l'alimentation. Et nous avons surtout beaucoup de complications. Nous, on arrive, surtout les femmes arrivent au stade de complications parce que d'abord, il y a un problème toujours de médecine et de diagnostic précoce.
Oui.
À l'intérieur, tout le monde est concentré à Nouakchott avec un bon plateau technique, avec de bons seniors, de médecins connus. Bon, à l'intérieur, on fait la tradithérapie en premier et on essaie de calmer le jeu. Et on a, nous, 43% de lithias simple comme diagnostic, mais 57% de lithias compliquées, que ce soit cholecyste aiguë, calcul de la voie biliaire principale, l'angiocholie, la pancréatite biliaire dont a parlé tout à l'heure professeur Rousset. Donc on a ce problème-là.
Ça veut dire que quand vous décidez d'opérer, la plupart du temps, il n'y a pas le choix, il faut y aller, quoi.
Nous, on va y aller parce que d'abord, on craint les problèmes de complications. Je vous ai dit que tout le monde pratiquement a un Nouakchott. Même si on fait un diagnostic d'une échographie, d'un calcul à l'intérieur du pays, les gens préfèrent aller à un Nouakchott. Ils attendent de faire leur préparation jusqu'à arriver au stade de complications.
Et professeur Haillé, quand justement il faut recourir à la chirurgie, là aussi ça se fait par célioscopie, je vais parler trivialement pour que tout le monde comprenne, ça veut dire qu'on n'ouvre pas le ventre, ça veut dire que c'est par petites incisions.
Oui, c'est par petites incisions qu'on fait la céliochirurgie actuellement, en Nouakchott. Et effectivement, dans de rares cas, on est obligé, vu l'obésité, les petites de la paroi abdominale, ou vu que la vésicule est un peu tout à fait derrière, c'est difficile à enlever, on change en laparotomie. Donc, c'est le plus souvent ça.
Un dernier point, professeur Haillé, si vous le voulez bien. S'il y avait vraiment des recommandations, un dernier message à faire passer aux auditeurs, ce serait lequel ?
Dernier message, c'est que nous, je vous ai dit, c'est la culture. Notre culture, c'est gaver, c'est prendre beaucoup de viande. On essaie de ne pas de conseiller aux gens de ne pas être en surpoids, d'éviter le diabète, de faire l'exercice physique et de chercher pour les femmes les œstroprogestatifs les moins dosés, quoi, dans leur contraception orale, d'éviter les syndromes dysmétaboliques. On a aussi les stéatoses hépatiques qu'on trouve souvent chez nous aussi.
Professeur Chantal Housset voulait intervenir. Il nous reste peu de temps, professeur Housset.
Alors, je voulais juste dire à monsieur Haillé que nous sommes parfaitement sur la même longueur d'onde. Je crois qu'on dit vraiment la même chose. Je voulais demander à monsieur Haillé s'il y avait beaucoup de chirurgie bariatrique en Mauritanie, parce que c'est aussi un des facteurs de risque. Il y a d'autres facteurs de risque dont on n'a pas parlé.
Chirurgie bariatrique, donc c'est pour lutter contre l'obésité.
Est-ce qu'il y a beaucoup de chirurgie bariatrique en Mauritanie?
Non, on n'en fait pas. Nous, on fait le contraire. On préfère être obèse que de faire la chirurgie bariatrique.
Ça ne fait pas partie de la culture.
Ah oui, c'est contraire. D'accord.
Chaque fois qu'on dit à une femme diminuer le poids, on dit ça, c'est le mauvais œil.
Les repères sont inversés, on va dire.
D'accord, très bien, très bien.
Bon, on vous remercie beaucoup, professeur Mohamed Haillé. Je rappelle que vous êtes hépato-gastro-entérologue au CHU de Nouakchott. On arrive à notre conclusion, professeur Housset. Tout à l'heure, en vous présentant, je n'ai pas insisté sur votre travail de recherche, parce que vous êtes responsable d'une équipe de recherche INSERM Sorbonne Université CNRS à l'hôpital Saint-Antoine, si je ne me trompe pas. Vous travaillez sur quoi ?
Sur les maladies biliaires.
D'accord.
Et qui sont des maladies rares, d'ailleurs. C'est un paradoxe. Les maladies biliaires sont des maladies auto-immunes. C'est la cholangite sclérosante primitive, la cirrhose biliaire primitive, qui sont des manifestations de auto-immunité dans les voies biliaires. Et c'est plutôt les petites voies biliaires ou les canaux biliaires. La lithiase, c'est une maladie fréquente, mais on considère vraiment l'ensemble comme faisant partie d'un système qui peut générer des maladies.
Merci beaucoup. Merci pour toutes ces explications. On a appris beaucoup de choses au cours de cette émission. Merci, professeur Chantal Housset, d'avoir répondu à notre invitation.
Priorité santé sur RFI.
Et on se retrouve pour la dernière partie de l'émission Coup de projecteur sur un moustique. Oui, un moustique, l'Anopheles stephensi. J'espère que j'ai bien prononcé son nom. Cet insecte est originaire d'Asie. Sa dissémination sur le continent africain inquiète sérieusement les chercheurs, les médecins, la communauté scientifique. En ligne avec nous, Frédéric Simard, bonjour.
Bonjour.
C'est bien ça son nom, stephensi, cet Anopheles?
C'est tout à fait ça. Ça se prononce comme le latin. C'est des noms latins. Donc, c'est Anopheles stephensi.
Alors, vous êtes entomologiste médical, excusez-moi, directeur de recherche à l'IRD. Frédéric Simard, nos auditeurs connaissent bien ces moustiques, en particulier l'Anopheles. Il y en a des milliers d'espèces de moustiques. Mais cette race en particulier, ce sont les vecteurs du paludisme. Alors, dites-nous, quelle est la particularité de ce moustique-là, le stephensi, d'où vient-il?
Bah, c'est un moustique qu'on connaît depuis longtemps, hein. C'est un anopheles, comme vous l'avez dit. Donc, les anopheles sont les seuls vecteurs des plasmodiums humains qui provoquent le paludisme chez l'homme. Et c'est le vecteur majeur du paludisme en Inde, qu'on connaît depuis longtemps. Donc, il était resté cantonné sur ce continent jusqu'à présent. Et on l'a détecté pour la première fois au début des années 2000 dans la corne de l'Afrique et en Afrique australe.
Dans quel pays en particulier, dans quelle région, Frédéric Simard?
Alors il est présent, là pour l'instant, il a été détecté surtout à Djibouti et en Éthiopie.
Est-ce qu'on a des craintes pour qu'il, on va dire, voyage vers d'autres zones d'Afrique, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest ou Afrique australe? Comment est-ce qu'on arrive à le suivre?
Eh ben, on peut le détecter. C'est un moustique qu'on sait reconnaître, hein, morphologiquement. Donc, sur le plan de l'extérieur, il a des particularités que les entomologistes peuvent reconnaître. Le seul truc, c'est qu'il faut, pouvoir s'y intéresser, l'attraper, le collecter pour pouvoir l'identifier. Donc, ça sous-entend qu'il y a des programmes de surveillance qui sont en place.
Ça veut dire aussi des moyens. Vous disiez, il existe depuis très longtemps, hein, ce fameux moustique. Pourquoi on s'en inquiète aujourd'hui?
Parce que il était resté cantonné en Inde, où le paludisme est moins grave qu'en Afrique, hein. Ce ne sont pas les mêmes parasites qu'on va trouver en Inde et en Afrique. Le parasite le plus mortel, le Plasmodium falciparum, se trouve en Afrique en majorité. Le fait qu'on ait un très bon vecteur qui envahisse l'Afrique, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est une invasion biologique, un moustique qui est importé en Afrique et qui y trouve un environnement favorable pour se développer. Dans un environnement urbain, jusqu'à présent, le paludisme en Afrique était essentiellement transmis par des anopheles ruraux dans les campagnes, en brousse. C'est une maladie de la brousse, le paludisme. Mais ce vecteur-là est adapté à l'environnement urbain. Il s'est adapté aux villes d'Inde et il envahit les villes africaines. Donc il représente un nouveau risque de propagation du paludisme dans les villes cette fois-ci.
Et là, c'est très grave. On sait très bien que sur le continent africain, eh bien, on dénombre plus de 90% des décès associés au paludisme, en particulier qui fait des ravages chez les jeunes enfants et chez les femmes enceintes. Comment faire justement maintenant, côté prévention, côté riposte, comment faire pour éviter cette dissémination, on l'a bien compris, pour que des grandes villes du continent ne soient pas directement infectées par ce moustique?
C'est un vrai problème, parce que les outils qu'on a actuellement et qui ont prouvé leur efficacité contre le paludisme en Afrique sont essentiellement des outils de contrôle vectoriel, la moustiquaire imprégnée d'insecticides, mm-hmm, et les aspersions intradomiciliaires d'insecticides. C'est ça qui marche en Afrique, c'est ça qui a fait régresser le paludisme depuis le début des années 2000, mais qui est calé sur le comportement de piqûre du vecteur majeur, un autre anopheles africain, qui va piquer essentiellement en pleine nuit, et à l'intérieur des habitations.
Et là, l'autre moustique n'a pas les mêmes habitudes, il nous reste 30 secondes. Ça veut dire quoi? Il faut lutter contre les eaux stagnantes, c'est ça la priorité?
C'est ça, il faut éviter, c'est un moustique qui se reproduit dans les eaux, dans les conteneurs faits par l'homme, les citernes. Il faut absolument boucher ces citernes, veiller à ce qu'il n'y ait pas de larves de moustiques et être très très vigilant pour ne pas qu'il y ait de la reproduction de ce moustique dans les villes.
Donc ça incite une nouvelle fois à l'investissement sur l'assainissement et sur l'accès à l'eau dans des conduits dignes de ce nom.
Il faut qu'on revoie notre urbanisme en Afrique, mais pas seulement. Vous savez qu'en France aussi, on est exposé à des invasions de moustiques tigres. Bah, c'est exactement le même principe.
Merci beaucoup Frédéric Simard pour toutes ces explications. On en reparlera, hein, dans Priorité Santé, bien sûr. Entomologiste médical, directeur de recherche à l'IRD. Merci à toute l'équipe mobilisée aujourd'hui, Ophélie Lassène, Juliette Brault, Didier Bleu, Didier Chérouse. Demain, on retrouve le docteur Catherine Solano, sexologue en direct, émission complète pour répondre à vos questions. Le thème du jour, sexualité et périnée. À demain.
Vous. Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sounou qui est à vos côtés pour lutter contre cette pandémie et vous assure de tout son soutien. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.